Bonsoir, vous avez évidemment entendu depuis hier cette phrase du président de la République sur ceux qui foutent le bordel. Alors quand même, au-delà de cette polémique, et on va pas hurler avec les loups, hein, cette polémique juste ou injuste, je ne sais pas. Bon, vous savez, il y a certains qui aiment toujours un petit peu s'emparer de ce type de polémique. Il y a une vraie question de fond qui est posée par le chef de l'État, c'est la question de la mobilité des salariés qui sont impactés par des suppressions de postes, justement. Alors, c'est GMS, par exemple, aujourd'hui, c'était Alstom à Belfort l'an dernier, et à qui on va proposer, eh bien, un nouvel emploi à quelques dizaines de kilomètres de chez eux, voire beaucoup plus. Ouais, le problème, c'est que les freins sont évidemment nombreux, les freins à la mobilité. Alors, comment les lever? Est-ce que les Français sont prêts à bouger pour travailler? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, on va s'intéresser vraiment au fond, hein, pas à la petite polémique politicienne. On va en parler notamment avec Thierry Veil, qui est délégué général de la Fabrique de l'Industrie, qui est un think tank qui regroupe de très nombreuses fédérations industrielles. Philippe Vivien, directeur général de Alixio, spécialisé, donc c'est un cabinet spécialisé dans les relations sociales. Il est ancien DRH d'Areva notamment. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Thomas Sigaud, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Tours, chercheur associé au CNAM, spécialiste des questions de mobilité. On va vous retrouver dans un instant. Simplement, le contexte quand même, hein, vous le savez, c'était hier après-midi, le déplacement à Égletons en Corrèze du président de la République qui avait été donc perturbé par certains manifestants des salariés de l'équipementier GMS, donc en difficulté, repris, mais dont 150 salariés vont perdre leur emploi. Au cours d'un aparté, donc, avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui évoquait les difficultés à recruter d'une entreprise de fonderie, Ducel, le chef de l'État avait estimé, je vais le citer, que certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire et ce n'est pas loin de chez eux. Alors, en fait, cette fonderie, c'est Constellium, situé quand même à 140 km de la souterraine. Il y a en fait 18 postes à pourvoir en intérim, en formation, même pas en CDI. Alors, je voudrais qu'on écoute, qu'on regarde le directeur général de Constellium, hein, à Ussel, sur ses difficultés à recruter. Puis ça va nous donner ensuite l'occasion d'enchaîner. C'est Jean-Baptiste Foisel.
Moi, je fais face au problème du bassin d'emploi d'Ussel, qui est au quasi plein emploi. D'accord ? Donc, j'ai énormément de mal à recruter sur le bassin d'emploi d'Ussel. Donc, se pose la question de faire venir de l'extérieur du bassin du personnel opérateur ouvrier. Et là, on a un vrai souci. On a un souci de mobilité. Les demandeurs d'emploi sont très difficilement mobiles. Et je comprends tout à fait la problématique de GMS, mais il n'y a pas que GMS. Je crois que la problématique se pose pour tout demandeur d'emploi qui, pour retrouver dans la branche qu'il souhaite, serait obligé de faire 150 km, 200 km. C'est un vrai problème.
Voilà, je crois qu'il a bien posé donc la question, Jean-Baptiste Foisel sur BFM TV, c'est le directeur général de Constellium à Ussel, hein, ce qu'il dit, bah voilà, il a du mal à recruter, comment faire venir de l'extérieur du bassin, il y a un problème de mobilité, voilà, problématique qui se pose pour tout demandeur d'emploi, qui doit faire 150 km quelque part de la souterraine jusqu'à Ussel, quand même sur 1h52. Ça vous fait réagir, bien sûr. Tiens, Philippe Vivien avec nous, donc du cabinet Alixio.
Plusieurs sujets. C'est vrai que la mobilité, c'est un vrai sujet. Et je crois qu'il y a deux éléments. Dans le cas particulier, on est encore dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on est dans l'émotion des salariés qui n'ont pas encore fait le deuil, il faut dire les choses très clairement, de leur situation présente. Et l'un des points importants, je crois que c'est de les mettre dans une perspective de recherche de ce nouveau travail. Et ça, je crois que c'est vraiment le point important. Sur la mobilité, je crois que les salariés sont extraordinairement rationnels. Ils sont dans une situation où, globalement, qu'est-ce qui se passe? Les salariés, par rapport à la mobilité, regardent trois éléments. Mon emploi, mes conditions de vie, mon logement, la situation familiale. C'est ça l'enjeu. Et s'ils ont confiance dans ce qu'il va leur arriver, je dirais, dans le nouveau lieu d'habitation, ils le font. Pour venir, j'ai retrouvé un sondage il y a 2 ans sur le sujet. 48% des salariés français disaient avoir au moins déménagé une fois pour raison professionnelle. La grande majorité d'entre eux dans le département ou dans la commune, et 77% d'entre eux disaient qu'ils étaient prêts à le faire. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de fatalité. Par contre, c'est vrai qu'il faut poser des conditions qui leur permettent, je dirais, d'être mobiles dans de bonnes conditions.
Oui, Thomas Sigaud, Emmanuel Le Chip, c'est vrai qu'on pourrait aussi ajouter l'autre affaire. Hein. C'est vrai, l'an dernier, le site Alstom de Belfort, qui aurait dû être transféré à Reichshoffen dans le Bas-Rhin, plus au nord, hein, d'ici 2018, cette fois à 199 km, 2h30. Oui, quand on écoute ce directeur général de Constellium, qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Sigaud, donc chercheur associé au CNAM?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être proposée. La crispation des pouvoirs publics autour de la question de la mobilité géographique des salariés, elle peut se comprendre dans le sens où les pouvoirs publics se concentrent sur la question de l'emploi. Plus de mobilité géographique permettrait de faire baisser à moyen constant le taux de chômage, peut-être d'un point, d'après certaines études. Sauf qu'on ne peut pas ramener la mobilité géographique à un simple arbitrage professionnel. Il faut bien évidemment prendre en compte les conditions de logement et la question, je dirais, d'une manière plus générale, des modes de vie. Les modes de vie sont profondément territorialisés. Ils sont liés à tout un ensemble d'équilibres qui mettent en jeu le travail du conjoint, bien évidemment l'accueil, la scolarisation des enfants et l'accès à tout un ensemble de ressources dont les salariés ont la certitude qu'ils risquent très probablement de les perdre en déménageant. Donc il faut vraiment penser multivecteur, penser ces trois dimensions-là en même temps pour pouvoir poser, comme vous le dites, avec un peu de sérénité la question de la mobilité géographique.
Vous avez raison et on reviendra sur chacun de ces points justement, on verra ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Emmanuel Le Chip.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on a des cas différents finalement entre Alstom ou GMS, mais qui renvoie à autant de problématiques multiples que vous avez évoquées. Le cas, par exemple, d'Alstom, on n'est pas là confronté à des salariés qui avaient perdu leur emploi, qui étaient juste mutés. Sauf que, un problème tout bête, imaginez qu'il y ait 100 familles de Belfort qui veuillent déménager et qui se mettent à vendre leur maison en même temps à Belfort, vous voyez que leur maison ne vaut plus rien, et donc c'est quand même un sujet.
Et quand ils vont se retrouver à Reichshoffen, dans le nord du Bas-Rhin, pour le coup, ils vont être obligés d'acheter des
familles. Après, il y a la mobilité, effectivement, entre régions. Puis il y a un autre sujet aussi qu'il faut évoquer et qui... hier soir, je ne connaissais pas la distance exacte entre GMS et UCL, et je pensais qu'elle était plus faible. Et je me disais, il y a un autre sujet aussi qu'on n'évoque pas, c'est aussi la mobilité dans un rayon qui vous permet quand même de ne pas déménager, mais où vous devez vous déplacer. Et c'est vrai qu'en France, on a des problématiques spécifiques, et moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Par exemple, ne serait-ce que le coût élevé du permis de conduire, par exemple, le nombre de gens qui ne peuvent pas aller chercher un travail à 20 ou 30 kilomètres de chez eux, si on considère que 20 ou 30 kilomètres, c'est quand même une distance raisonnable encore à parcourir.
Parce qu'ils n'ont pas
jour,
de permis.
Parce qu'il n'y a pas de permis, parce qu'il n'y a pas les transports en commun, etc. Donc on est sur des problématiques qui sont effectivement multiples.
Thomas Sigaud. C'est peut-être pour ça justement que Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Bercy, avait imaginé les autocars Macron. Alors, efficace ou pas, je ne sais pas, mais enfin voilà, pour répondre à Emmanuel Le Chypre.
Oui, alors tout à fait, il y a deux dimensions derrière la question de la mobilité quotidienne. Il faut bien articuler la mobilité résidentielle, déménager, et la mobilité quotidienne, se déplacer. Aujourd'hui, l'arbitrage qui est opéré par les salariés français dans ce genre de situation est clairement un arbitrage en faveur de la mobilité quotidienne. Souvent dans un provisoire qui s'installe et un provisoire qui dure. Alors la question de l'accès au permis de conduire, elle est fondamentale pour les travailleurs, les salariés qui habitent dans les zones périurbaines ou les zones rurales. C'est vrai, on a beaucoup parlé de la perte de densité des réseaux de transport en commun dans ces régions périphériques. Il faut aussi prendre en compte un petit peu le revers de la médaille, le contre-champ, dans le sens où on a à peu près aujourd'hui environ 800 000 travailleurs qui vont travailler dans une aire urbaine qui est différente de celle de leur aire urbaine de résidence. Par exemple, Paris-Tours, Lyon-Marseille, ce genre de choses. C'est quand même un chiffre qui est significatif et qui met en avant aussi l'importance des réseaux de transport et des voies de communication entre les grandes villes. Et peut-être que ça laisse de côté les territoires les plus périphériques.
Ouais, il faudrait... Oui, pardon, qui prenait la parole Thierry Veil, donc délégué général de la fabrique de l'industrie. On va en écouter tout à l'heure Monsieur Foisel, le directeur général de Constellium. À vos yeux, qu'est-ce qui empêche justement cette mobilité?
Ce qui m'a frappé dans ce que disait Monsieur Foisel, c'est qu'il disait « mais moi j'ai des tas de postes ouverts que je n'arrive pas à pourvoir ».
Et pourquoi ?
Et lui, la difficulté géographique d'attirer des gens à Lucelle s'ajoutait, parce qu'il faut que le conjoint trouve un poste, parfois on a les parents qui aident à garder les enfants, enfin on a des tas de raisons de rester, mais même en agglomération, même dans les métropoles un peu denses, on a certains métiers en tension. Donc même en faisant infraction de tous ces sujets de mobilité, et un des scandales, c'est quand même toutes ces entreprises qui n'arrivent pas à recruter des gens dont ils ont besoin, qui vont parfois aller jusqu'à ouvrir une unité de fabrication ailleurs, faute de trouver les compétences en France, et en même temps, le nombre de chômeurs, de gens qui cherchent un emploi.
C'est quoi? La raison principale, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, d'écoles, de logements, de transports? À votre avis, Thomas Sigaud, vous qui avez enquêté justement sur ces freins à la mobilité? Pourquoi ce monsieur n'arrive pas à trouver dans sa zone? Mais ce monsieur est apparemment des dizaines ou des centaines d'autres. Hein.
Alors, je pense qu'il faut prendre en compte deux dimensions. La première, c'est la dimension professionnelle, poser la question des politiques RH et des politiques d'attractivité des entreprises. En période de chômage de masse, il faut quand même prendre acte du fait que proposer un emploi n'est pas toujours suffisant pour attirer des chômeurs. On pose la question de la rémunération, la question du statut d'emploi, la question aussi de la pérennité de l'emploi et du site de production recruteur. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension est plus d'ordre, je dirais, vraiment sociologique. Il faut jamais sous-estimer le saut dans l'inconnu que peut représenter une mobilité géographique. Et même parfois, sur des distances très courtes, les salariés qui sont confrontés à une mobilité géographique doivent réapprendre un nouveau territoire, le décoder, identifier les ressources et les contraintes qu'ils proposent. Ça, c'est un travail très difficile et pour lequel les salariés sont mal accompagnés aujourd'hui.
Ouais, tiens, justement, le DRH que vous étiez, bon, et puis maintenant vous êtes toujours dans ce milieu-là, Philippe Vivien à la tête d'Alixio, quand on est DRH justement, comment est-ce qu'on arrive à convaincre un employé finalement que cette mobilité, alors subie, hein, quelque part, forcée, hein, bien sûr. Finalement, ça peut être une magnifique opportunité de carrière. C'est un peu compliqué, parfois, avant,
c'est de lui donner confiance dans le métier qu'il va exercer. C'est qu'il se dise, ce métier, c'est un métier dont je peux être fier, dont je vais être fier, et c'est un métier qui va m'apporter du développement professionnel. Ça, je crois que c'est toujours le premier sujet. Deuxième sujet, évidemment, c'est des banalités. Ça va être les conditions d'emploi, les conditions de rémunération, faire en sorte qu'elles soient acceptables dans sa carrière professionnelle. Et puis, troisièmement, quand on est sur l'accompagnement d'une famille en mobilité géographique, ben, je l'ai dit, c'est accompagner la famille. C'est pas seulement une affaire du salarié en tant que tel. C'est une décision familiale. On l'a dit tout à l'heure, de quitter une ville dans laquelle on habitait, il faut accompagner. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que, regardez, vous prenez deux cadres. Je dirais, clairement, aujourd'hui, la mobilité des cadres est presque aussi difficile, compte tenu des deux carrières parallèles, que la mobilité d'ouvriers. Géographiquement, la répartition des emplois cadres, elle est ce qu'elle est. Être capable de gérer deux carrières en parallèle, c'est pas facile avec des mobilités. Et on voit même parfois le paradoxe où, je dirais, dans le cadre de personnel ouvrier, la mobilité géographique est parfois plus simple quand vous êtes dans une grande entreprise, on vous propose un job dans une autre région de la même entreprise, donc grosso modo vous gardez à peu près votre certitude de statut, et si l'entreprise est capable d'aider le conjoint à trouver un job moins à risque que ce qu'il avait ou ce qu'elle avait, je dirais, dans la ville d'origine, la mobilité fonctionne. Et moi, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. C'est à la fois extrêmement réjouissant parce qu'il y a une vraie prise de risque, de la famille, et ça montre que c'est possible. Et je crois que c'est vraiment un point tout à fait important.
Et ça, une boîte arrive à gérer, et finalement, la mobilité des deux en même temps, même si le deuxième ne fait pas partie de la...
Je crois que ça fait vraiment partie aujourd'hui, en particulier dans des périodes de restructuration, ça fait vraiment partie des enjeux de cette mobilité. Sinon, c'est trop facile de dire aux salariés, soyez mobile. C'est pas le sujet.
Bien sûr, ça serait un peu égoïste, en effet, de leur dire ça. Quand on voit tous les obstacles, Thomas Sigaud, qu'on a pu dresser, en premier peut-être, est-ce qu'on doit mettre le logement ou pas? Est-ce que c'est vraiment le premier frein majeur?
Alors, je mettrai en avant le logement et la question de l'emploi du conjoint, qui est quand même importante. Cela dit, oui, le logement. Alors, dans une approche très économique, le calcul des coûts, hein, vous l'avez très bien dit, les salariés sont rationnels et sont tout à fait capables de calculer ce que leur coûterait une mobilité géographique, mais aussi pour ce que le logement représente au-delà du bien lui-même. Le logement, c'est un ancrage, le logement, c'est une ressource, le logement, c'est l'accès aussi à des réseaux de solidarité, d'entraide, d'interconnaissance, qui sont longs et coûteux à reconstruire. Donc la question du logement, oui, mais vraiment dans une perspective d'ensemble, dans une perspective globale, sans se focaliser, par exemple, sur la question des droits de mutation seul.
C'est autre chose. Oui, c'est ce que vous parlez, c'est ce que vous appelez l'ancrage territorial, finalement, le réseau familial, le réseau amical, qu'on va quitter et qu'il va falloir reconstruire nécessairement.
Tout à fait. Mais l'importance de l'accompagnement, elle est aussi primordiale dans le sens où les mobilités qui marchent, les mobilités qui réussissent, sont toujours des mobilités qui se font au bon moment pour les salariés. C'est-à-dire quand, souvent grâce à des accompagnements en amont, et souvent des accompagnements qui sont commencés longtemps, par exemple avant un PSE, certains accompagnements peuvent commencer 6, 9, 1 mois avant le déclenchement de la fermeture du site. Et ces accompagnements permettent par petites touches d'accompagner les salariés dans la découverte des opportunités que peut présenter un nouveau territoire. Opportunités, par exemple, une mobilité peut être l'occasion de s'approcher d'un nouveau collège avec les enfants qui grandissent, par exemple. Peut être l'occasion de découvrir des nouvelles activités associatives ou de loisirs proposées par des grandes villes auxquelles on ne pouvait pas avoir accès autour du logement précédent, par exemple, ou à des aménités, des logements plus grands, de la nature, des jardins. Enfin, c'est toujours une histoire que racontent les salariés en matière de mobilité. Et c'est cette histoire qu'il faut savoir écouter pour la raconter avec eux. Sinon, les mobilités ne se font pas.
Et cette notion d'anticipation, Philippe Vivien, elle est fondamentale. On écoute Thomas Sigaud et vous en êtes convaincu. Mais est-ce que vous avez l'impression que lorsqu'il y a un plan social qui est décidé, on prend suffisamment de temps en amont? Parler de 9 mois, justement, j'ai l'impression que parfois, on n'a pas le temps.
Non, mais ça va parfois très vite, exactement. Ah oui. Je dirais, on n'a pas forcément 9 mois devant soi, ça c'est évident. Il y a un point, je dirais, qui est toujours extrêmement important, c'est qu'un salarié qui a été, si je puis dire, mobile professionnellement dans son entreprise est plus apte à être mobile géographiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez classiquement. Quelqu'un qui a déjà changé de métier ou au moins est passé d'un métier à un autre assez connexe, s'est déjà ouvert des perspectives. Il s'est déjà mis en risque professionnel, si je puis dire. Et ce nouveau risque professionnel...
C'est pas tout le monde aussi.
Exactement, voilà. C'est pas tout le monde. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est véritablement de faire en sorte qu'on puisse mettre en risque, gérer l'ensemble des salariés pour justement faire en sorte que cette mobilité professionnelle, déjà sur son propre site, il sache que c'est. Et après, c'est assez sûr qu'on sort du lagon et qu'on va en haute mer. Ça, c'est évident.
Et on revient dans le lagon. Thierry Veil, la fabrique de l'industrie.
C'est pas tout le monde que vient de dire Philippe Vivien, qui a eu l'occasion d'avoir une mobilité thématique, enfin de changer de job à l'intérieur de la même entreprise. Mais le monde ancien, si j'ose dire, on pouvait faire toute sa carrière dans les mêmes fonctions et au même endroit, il devient révolu pour la plupart des gens. Et le problème est évidemment un peu la mobilité géographique, mais surtout si on veut rester dans son bassin d'emploi, et tout le monde l'a dit, beaucoup de gens ont bonne raison de le faire, sont ancrés, ça veut dire qu'il faut être capable au moins de bouger sur ce qu'on fait, et c'est pas si facile, ça aussi ça s'accompagne, il faut trouver un accompagnement sur le plan formation qui permette d'acquérir les compétences pour faire un nouveau job, et c'est probablement là qu'on a de toute façon d'énormes progrès à faire, à la fois pour changer thématiquement et parce que, comme vient de le rappeler Philippe Vivien, les gens qui ont changé thématiquement sont les plus aptes à changer aussi géographiquement.
On va revenir sur la formation, mais c'est vrai, ce maillage relationnel dont nous parlait tout à l'heure Thomas Sigaud, donc qui apporte quelque part une sécurité psychologique, matérielle, un réseau familial, un réseau amical, finalement cet ancrage territorial. Emmanuel Le Chip, difficile de le quitter quand on travaille dans certaines boîtes. Je prends l'exemple de Belfort. L'usine, elle a vu le jour en 1872. La main-d'œuvre locale, elle a eu le temps largement en presque 150 ans de prendre racine. C'est extrêmement difficile.
Oui, puis là, on voit bien qu'on va au-delà de la simple proximité géographique. C'est-à-dire que là, on a l'histoire d'une ville. La fermeture de cette usine, c'est aussi finalement la fin d'une histoire pour la ville. Donc tout ça est extrêmement affectif. Le problème, c'est que ce sujet ne va faire que monter en puissance, parce que malheureusement on voit bien qu'aujourd'hui on a une polarisation que rien ne semble devoir ou pouvoir arrêter vers la métropolisation. C'est-à-dire que autant quand vous aviez une économie industrielle qui était plutôt bien répartie sur tout le territoire, vous aviez finalement un maillage d'entreprises qui était plus dense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on voit. Aujourd'hui, vous avez un tissu industriel qui se délite et vous avez une concentration des services dans les métropoles. On nous a dit, avec Internet, tout le monde se voyait déjà travailler chez soi, plus de bureaux, plus de tout ça. Bon, c'est pas vrai. On voit que finalement, les forces centripètes sont toujours aussi puissantes. Et donc, il va bien falloir aussi se poser la question de l'agrégation des emplois disponibles vers ces grandes métropoles, ce qui va obliger aussi forcément les gens à bouger.
On reparlera du maillage territorial, justement. Tiens, question de Le Second 2 sur Twitter qui nous dit « Les Français peuvent être mobiles, cependant, quelle tranche d'âge serait susceptible de décrocher un nouveau travail ?» Évidemment, on revient toujours, Philippe Vivien, certains sont plus mobiles que d'autres.
Bien sûr.
Et en fonction de l'âge, bien entendu.
Avec ces dernières années, quand même, des bémols. Des bémols qui sont liés aux structures familiales. Mmh. Des salariés dont les enfants sont grands et qui ont retrouvé une certaine liberté sont plus mobiles
tout juste
que d'autres.
Bien sûr.
Des salariés divorcés qui partagent la garde des enfants sont pas mobiles.
Tout juste.
Et on peut pas leur reprocher.
Ben non.
Et donc, aujourd'hui, je crois que le côté le jeune est mobile, le senior l'est moins, c'est plus aussi simple que ça. Je crois qu'il faut passer à un niveau d'analyse un tout petit peu plus précis.
Thomas Sigaud.
Oui, je confirme. C'est vrai que quand on prend les statistiques de l'échelle la plus globale qui soit, de fait, la part de jeunes qui déménagent est plus importante que la part de seniors. C'est vrai. Mais c'est lié à des éléments structurels, la concentration des formations supérieures dans les grandes villes, le fait de devoir bouger au premier emploi. Je pense que la mobilité, elle se joue à des temps, à des moments. Et effectivement, quelque chose qui est un peu nouveau, on a des choses très classiques. On bouge pour le premier emploi après les études supérieures ou après des études professionnelles. Oui. On bouge vers 35 ans quand le deuxième ou troisième enfant arrive pour adapter les conditions de logement. C'est vrai. Mais on voit aussi des études de cas, ça je l'ai vraiment vu sur le terrain, de mobilité à 50 ans, où on se rapproche d'un grand pôle urbain quand les enfants sont grands pour pouvoir redynamiser sa carrière et accéder à poste de direction. Des allers-retours en ville qui fragmentent en fait ce paysage de la mobilité, le diversifient. Le véritable enjeu, c'est pour les politiques publiques et pour les managers et les responsables RH de réussir à trouver, d'anticiper ces moments-là et de pouvoir les utiliser comme des leviers d'action. Si on pouvait arriver à quelque chose, ce serait de dire cessons de penser la mobilité en termes de freins et employons-nous à trouver les leviers.
Tout juste, oui, Philippe Vivien.
Non, j'acquiesce totalement et c'est vrai que l'un des enjeux, c'est que finalement, ce qui est difficile, c'est trouver le bon moment pour proposer une mobilité. On n'est pas dans la situation qu'on a vue tout à l'heure.
Oui, non, bien sûr.
Mais trouver le bon moment. Et je crois que l'un des enjeux, c'est véritablement de faire en sorte que les salariés osent le dire à leur manager, à leur patron, pour pas s'entendre dire, mais tu m'as dit que tu étais mobile, tu seras plus avec moi l'année prochaine, donc tu seras peut-être pas augmenté, enfin la vie sera peut-être un peu plus compliquée que pour toi. Et d'un autre côté, que quand ils nous le disent, on sache vraiment saisir de cette demande pour proposer quelque chose.
Bon, on va se retrouver dans un instant. Comment inciter, comment sécuriser donc les mobilités géographiques des salariés. On reviendra notamment sur la question du logement. Il y a le gouvernement qui envisage de mettre en place un bail mobilité. On verra ce qu'il en est. Justement, on avait une remarque tout à l'heure sur Twitter. Je ne sais pas si on peut l'afficher, la retrouver justement concernant justement. Eh bien les frais de mutation. Chris Pace qui nous dit qu'il faudrait penser à baisser les droits de mutation qui sont un vrai frein à la mobilité pour les propriétaires. Et c'est vrai que la question du logement, c'est un énorme frein et c'est peut-être pour ça justement que le gouvernement aussi essaye d'anticiper grâce à ce bail mobilité. On parlera de la formation aussi. Et puis est-ce que les Français sont aussi sédentaires qu'on le dit? Hein, pas sûr. Il y a peut-être plus sédentaires que nous en Europe, vous le verrez. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, j'ai voulu revenir, alors non pas sur la polémique en tant que telle, savoir si le président de la République est cynique, pas cynique, méprisant, tout ça. Bon, non, c'est pas là où on va se poser la question ici ce soir dans les décodeurs de l'écho sur BFM Business, mais... Quand Emmanuel Macron donc se trouve hier donc pas très loin des salariés de GMS et qu'il dit certains au lieu de foutre le bordel feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas c'était à 100 quelques une centaine de kilomètres à Ussel où il y a une fonderie qui a vraiment du mal à recruter. Oui, il pose une question, c'est la question de la mobilité, justement, la mobilité des salariés impactés par une perte d'emploi. Alors, on a vu qu'il y avait un certain nombre de freins liés au logement, à la situation du conjoint, l'ancrage territorial, parce que, on s'est fait un réseau d'amis, de familles, etc., etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire, justement? Alors, la question du logement. Alors, on voit que le gouvernement va mettre en place le bail mobilité. Ça a été annoncé il y a 2-3 semaines par les ministres, notamment Julien de Normandie. Le gouvernement prévoit de créer un bail mobilité de 1 à 10 mois, notamment pour les personnes en apprentissage, en formation professionnelle et en stage. Aucun dépôt de garantie ne serait demandé aux locataires. Est-ce que ça vous semble un bon dispositif à appliquer justement à des gens dont la situation professionnelle est un petit peu fragile? Thomas Sigaud, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Tours.
Alors, ce projet de réforme, que j'ai pas eu l'occasion d'analyser dans le détail, m'inspire plusieurs réflexions. Premièrement, il est vrai que le marché du logement en France est très segmenté et en favorise nettement les salariés en emploi stable qui ont plus de facilité à accéder à un logement, en particulier dans les zones tendues.
Parce qu'ils fournissent des garanties.
Et voilà. Évidemment, tout le monde sait, quand on est intérimaire ou en emploi en CDD, c'est plus difficile de se loger près des grandes villes. Donc ça, c'est vrai. Deuxièmement, effectivement, ça peut être aussi un peu angoissant pour un salarié d'avoir le sentiment d'être lié par son bail. Et il y a déjà des dispositifs qui permettent, par exemple, de raccourcir la période de préavis en cas de mutation professionnelle. Ce sont des bonnes choses. Cela dit, je prendrais une toute petite précaution en disant, attention, il faut bien étudier le dispositif dans le sens, et là, j'ai pas de solution miracle, ou ne pas oublier que c'est la sécurité qui fait la mobilité. Ça, on l'a dit, on a employé ce terme-là, on l'a répété, et la mobilité, elle doit s'intégrer dans une sécurisation globale des parcours professionnels et résidentiels. Donc, voilà, j'en dirai pas plus, mais cette dimension-là doit vraiment être présente.
Emmanuel de Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Question, réflexion donc sur cette question de la mobilité.
Bah, moi, ce qui me sidère, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a l'impression que c'est un vrai problème en France. Or, quand on regarde cette affaire de mobilité, finalement les chiffres, on voit que finalement les Français, ils sont peut-être moins mobiles que les Américains ou que les Scandinaves, mais que finalement par rapport à beaucoup d'Européens, ils sont pas moins mobiles. Mais la question, c'est, il y a d'un côté le fait qu'on bouge beaucoup ou pas, mais si dans les pays où on bouge pas, il y a peut-être moins de raisons de bouger. Et donc ma question, c'est, derrière ces chiffres, est-ce que la tension provoquée par le manque de mobilité, elle est plus forte en France qu'à l'étranger, et ça, j'ai pas la réponse.
Alors qui répond ? Il y a peut-être Philippe Vivien avec nous, donc directeur général du cabinet de conseil en relations sociales, Alixio. Est-ce que les Français aiment bouger ? Est-ce que les Français sont aussi sédentaires qu'on le croit ? Ou alors tout ça sont des a priori ?
Je crois qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a à la fois beaucoup d'a priori, et quand on se regarde, on peut se désoler, mais quand on peut se comparer, on peut se retrouver quand même quelques bonnes surprises. Je veux dire, il y a plein de pays d'Europe, moi j'ai eu l'occasion de travailler aussi à l'étranger ou avec des collègues étrangers, les Allemands sont pas plus mobiles que les Français. Alors pour d'autres raisons, c'est-à-dire l'aménagement du territoire est tellement
différent. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de villes, mais finalement, moyennes.
Exactement. Et la grande difficulté, le grand paradoxe français, c'est qu'on veut de la mobilité partout et en même temps, on est hyper centralisateur.
Ben oui.
Et à partir de là, on est dans une équation quasi infernale, quasi impossible. Donc, je dirais, à partir du moment où on se met dans une situation où on met en place des conditions de mobilité qui peuvent fonctionner, on voit bien qu'elles fonctionnent. Le drame en France, c'est que, et on le sait tous, c'est que quand vous prenez les grandes métropoles pour les cadres, les usines sont pas forcément dans ces grandes métropoles, sont même pas du tout dans ces grandes métropoles. On a un certain nombre de déserts industriels aujourd'hui et de plus en plus. Et on voit bien qu'on a un déséquilibre, je dirais, de démographie d'entreprise qui ne facilite pas la mobilité. On le disait tout à l'heure, la double carrière. On le disait tout à l'heure sur un emploi précaire et un emploi plus stable. C'est pas facile, tout ça. Et il y a de tels déséquilibres. Il y a eu de telles évolutions de la situation de l'emploi dans les bassins d'emploi. Les bassins d'emploi qui étaient en plein emploi il y a quelques années sont parfois aujourd'hui en situation totalement sinistrée, et d'autres se sont mis. Prendre la décision de passer de l'un à l'autre, quand on est à plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas facile. Et c'est pas facile aussi parce qu'on sait pas prédire l'avenir, par définition.
Ouais,
c'est pas simple, tout ça.
On va y revenir sur le maillage territorial, justement, notamment des industries. Alors, le livre blanc de la mobilité géographique des salariés, en 2015, je sais pas si vous y avez participé ou pas, Thomas Sigaud, ouais. On lit, les taux de mobilité sont relativement élevés en France. Ils sont légèrement supérieurs à leur niveau d'il y a 40 ans. Si elle est moins élevée, en effet, qu'aux États-Unis, ce que disait très très bien Emmanuel Le Chypre, ou dans les pays scandinaves, elle est plus élevée qu'en Grande-Bretagne, qu'en Belgique, qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, Italie, et deux fois supérieure à celle de l'Espagne. Qu'est-ce que vous avez observé ? Comment vous analysez tout ça ?
Déjà, ce sont vraiment des chiffres dont je pense qu'il est important de les rappeler. On construit beaucoup cette image du Français qui serait culturellement sédentaire, on le compare au salarié américain qui aurait toujours la valise prête, bouclée, etc.
Bon, de fait, sur
le camping-car,
oui, voilà, c'est ça. Bon, de fait, ce sont des représentations qui résistent pas à l'examen cru des statistiques. Et quand même, je pense à une étude qui comparait, qui avait interrogé les salariés sur depuis deux ans, avez-vous déménagé? 20% de réponses oui aux États-Unis, 16% de réponses oui en France. C'était à la fin des années 2000. Donc quand même des écarts très faibles. La comparaison avec les pays du Sud, cela dit, est un petit peu trompeuse dans le sens où on connaît les grandes difficultés qu'a connues l'Espagne en matière d'accès au logement, avec des familles endettées parfois sur plusieurs générations, et qui explique peut-être un gel des mobilités résidentielles dans ce pays. Mais tout ça, ça nous dit que finalement, et c'est vraiment important, la mobilité n'est pas un but en soi. Et il faut surtout pas piloter une entreprise ou piloter l'économie française en fixant un taux de mobilité cible. J'ai connu des DRH me disant, cette année, je dois faire 127 mobilités. Pas 126, 127. Hein. Et si c'est 128, c'est mieux. Ça, c'est absurde. C'est absurde parce que, par exemple, on parlait de maillage territorial. Il y a des collègues qui ont travaillé sur le tissu industriel dans le monde rural en France. On a des petits pôles urbains, des villes moyennes qui ont un véritable tissu de PME, PMI, et dans lesquels on a des ouvriers, par exemple, qui circulent au long de leur carrière sans être mobiles, mais avec un tissu industriel qui est extrêmement vivant. Donc, dans ce cas-là, la mobilité n'est pas un but en soi. Il faut vraiment prendre ça en considération.
Thierry va être délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Une fois qu'il y a cette mobilité qui est organisée, bien anticipée, accompagnée, justement, vers quelle région on retrouve justement ces salariés? Vers quelle région ils sont prêts à aller? Alors je vais utiliser un cliché, si on propose à un salarié de 7 d'aller habiter à Arras, j'imagine ça sera peut-être moins facile que si on propose à un Meusien par exemple de déménager, j'en sais rien, à Arcachon par exemple. J'ai aucun mépris, ni pour la Lorraine, ni pour le Pas-de-Calais bien entendu. Hein.
Bon, c'est clair qu'on assiste aujourd'hui à une concentration des emplois exposé à la concurrence internationale dans une quinzaine de grandes métropoles, Emmanuel de Chypre l'a rappelé, et dans un pays qui est beaucoup moins dense que n'est l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne, il y a aussi des métropoles, mais les métropoles sont l'une à côté de l'autre, et elles contrôlent un arrière-pays de quelques dizaines de kilomètres, alors que vous avez pris l'exemple du salarié de la souterraine auquel on propose d'aller à Ussel, c'est techniquement pas si facile d'aller tous les matins passer presque 2 heures de voiture. Mais on dit que les Français veulent pas déménager, il y a au moins une catégorie qui ne demande pas mieux que d'être mobile et qui n'y arrive pas. Vous avez cité à l'occasion du bail mobilité l'apprentissage, les stages, etc. Un jeune qui veut faire un apprentissage dans une certaine profession, bon, autant pour les filières générales, il y a des universités denses sur le territoire, on trouve une offre partout. En revanche, si vous voulez apprendre l'ajustage, la soudure, les métiers de la charcuterie ou de la restauration, il n'y en a pas dans toutes les crèmeries. Un jeune apprenti, il n'a pas encore de permis de conduire. Ne pas loger chez papa et maman, c'est un surcoût important. Donc si on veut encourager ceux qui sont prêts à le faire et ceux qui sont prêts à bouger, aller en apprentissage ou aller faire ce genre de mobilité, il faut résoudre le problème de leur logement. Il faut éventuellement dire, ces gens-là ont les transports gratuits s'ils veulent rentrer certains week-ends dans leur famille. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui ont une vocation professionnelle, qui veulent faire des études de métallurgiste. Et on dit, ah ben désolé, les seuls lycées professionnels autour de toi, c'est les métiers de bouche. Donc tu voulais faire de la métallurgie, tu vas apprendre l'hôtellerie-restauration. Et on s'étonne qu'il ne soit pas très motivé quand on l'a orienté par la géographie plutôt que par ce qu'il avait envie de faire.
Ouais, Thomas Sigaud, Emmanuel Lechy, vous avez l'impression qu'on fait assez en matière de formation, d'apprentissage, justement pour permettre à des jeunes de s'épanouir, de faire ce qu'ils veulent faire, là où ils ont envie d'apprendre ou de travailler. Alors tiens, Thomas Sigaud.
Quelque chose qui est important, on parle du fait que les jeunes soient plus mobiles que par exemple les plus de 50 ans, mais on a aussi dit que la mobilité s'apprend. Certains sociologues disent qu'être mobile, c'est une compétence qui s'accumule, qui se développe au fil du temps, qui n'a rien à voir avec une culture qui serait une sorte de petite boîte noire cachée dans les préférences des individus. Simplement, ça s'apprend. Et les jeunes apprentis ne connaissent pas. Ils connaissent pas les démarches. Ils ont du mal à présenter un dossier pour accéder à un logement. C'est tout à fait normal. Et on revient à la question de l'accompagnement. Je propose une formation et un emploi, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ben, il faut le reste. Et ça, c'est à mon sens vraiment important.
Emmanuel.
Non, c'est vrai que alors il y avait des traditions qui existent toujours, le compagnonnage, tout ça. C'est vrai que c'était justement cette idée d'aller partager, voir des expériences ailleurs, et puis on se fixait. Mais c'est vrai qu'il y a tout un environnement qui est aussi plus complexe à abandonner aujourd'hui, parce que par rapport à il y a 30 ou 40 ans, effectivement, c'était quand même plus facile de partir, vous aviez quand même beaucoup moins de problématiques. Il y avait
Qu'est-ce qui était plus facile à l'époque?
C'était plus facile de trouver du travail, c'était plus facile...
Madame ne travaillait moins peut-être à l'époque.
De se loger, il y avait effectivement moins cette problématique du double emploi qu'on retrouve aujourd'hui alors chez des cadres supérieurs, mais qui du coup ont pas forcément le problème de pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai que c'était... Et puis il y avait cette densité géographique qui faisait qu'on pouvait effectivement... trouver beaucoup plus facilement, mais c'est compliqué, oui, c'est compliqué.
Il y a une nouvelle carte industrielle du pays qui s'esquisse ou pas, Thierry Veil?
Ah ben, il y a clairement des zones qui ont été des zones très industrielles et où il y a de moins en moins d'emplois industriels et où ça va vite, parce que bon, il y a 30 ans, on a résolu le problème de la baisse de la sidérurgie lorraine en disant on va mettre en pré-retraite les sidérurgistes et on va faire venir des boîtes d'informatique et on va essayer de créer des formations pour que les enfants des sidérurgistes puissent être informaticiens. Aujourd'hui, il n'est pas question de mettre en pré-retraite des gens de 35 ans dont les compétences, enfin, qui ont besoin de continuer à se former pour pouvoir occuper leur poste. On est à un rythme de mutation où les gens vont devoir se former tout au long de leur vie. Et encore une fois, c'est parfois une mobilité géographique. Ce qui est lourd, c'est parfois simplement une mobilité thématique. Et il faut aussi que les entreprises, même quand ça va bien, aident leurs employés à augmenter leur spectre de compétences pour dire, bah, demain, leur job risque d'évoluer. Et même si leur job à eux risque pas d'évoluer, il faut les habituer régulièrement à faire des formations pour que ça devienne une habitude pour eux.
C'est ce que vous conseillez de faire, Philippe Vivien, justement,
Et on voit bien que le programme gouvernemental va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire, les deux prochaines réformes, qu'est-ce que c'est? C'est la réforme de la formation, on y est en plein. Et la deuxième réforme sur l'assurance chômage, cette idée qui paraît assez saugrenue de dire qu'un démissionnaire pourra bénéficier une fois tous les 5 ans, je ne sais quoi, de l'assurance chômage, ça procède aussi de ça.
De cette mobilité.
De cette capacité d'être mobile, d'accompagner, de trouver un nouvel emploi.
De ne pas perdre ses acquis, justement, ses droits à la formation. Etc.
Et de ne pas simplement se recroqueviller en disant je vais perdre mon emploi, ma prime d'ancienneté et ma capacité à trouver un emploi nouveau.
Thomas Higo, oui.
Oui, non, mais là on est vraiment au cœur du problème. À deux dimensions. D'abord, à chaque fois qu'on parle de mobilité, il y a toujours la question de l'immobilité qui arrive. Les deux vont ensemble. Une mobilité professionnelle peut permettre de ne pas avoir à être mobile sur le plan géographique. Une mobilité quotidienne peut éviter d'avoir à déménager. Ou au contraire, une mobilité résidentielle peut permettre de réduire les mobilités quotidiennes. Quand on pense qu'on nous vend le télétravail comme la clé, la pièce maîtresse de la solution au problème de mobilité, le télétravail c'est l'incarnation de l'immobilité puisque les gens peuvent rester chez eux. Et il faut ne pas s'interdire de penser en termes d'articulation de la mobilité et de l'immobilité. Et puis le deuxième problème, la deuxième question centrale, c'est celle de la sécurisation des parcours. Il faut bien faire attention à la formulation de l'enjeu. Il ne s'agit pas d'être mobile pour sécuriser ses parcours, il s'agit de sécuriser les parcours pour être mobile. Prenons acte, nous sortons d'un modèle du plein emploi pour entrer dans un modèle de la pleine carrière. La mobilité géographique aujourd'hui est la pièce manquante des politiques de sécurisation des parcours professionnels, elle doit être intégrée.
Ouais, tiens, à propos des zones un peu, défavorisées, entre guillemets, hein, Macron toujours, il était à Amiens, vous le savez, avant-hier, donc sur le site de Whirlpool. Et le même jour aux presses, c'est Amazon qui annonçait l'ouverture de leur dernier grand centre, je crois que c'est le sixième grand centre de stockage, de centre de livraison, plus important que tous les autres. Je crois que c'est 107 000 m2, il y a 500 emplois donc qui vont être créés. L'idée, c'est quoi? C'est faire venir les usines, les entrepôts, les emplois finalement, là où il y a des personnes justement en quête d'emploi, Thierry Veil?
Bah, c'est vrai qu'on vient de décrire toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour des gens à déménager géographiquement, et plutôt que de demander aux gens d'aller là où il y a de l'emploi, si on peut amener l'emploi là où il y a des gens, c'est quand même une bonne idée. Donc Amiens, typiquement, est une ville qui a perdu beaucoup d'emplois industriels. Pour Amazon, tiens, là, il y a des gens qui demandent pas mieux que de travailler, je peux les former moi-même au métier, parce que l'important est qu'ils aient la bonne qualification, mais justement, Amazon a des formations internes pour que les gens puissent être employables. Bon, il faut qu'il y ait un minimum de conditions, de bonne logistique, des lignes de train, enfin, on peut pas mettre un entrepôt d'Amazon dans des endroits trop enclavés. Mais justement, c'est ce qu'a fait aussi Toyota en allant à Valenciennes, un bassin d'emploi qui était en difficulté.
Smart dans le nord de la Moselle aussi.
Smart dans le nord de la Moselle. Et bon, une autre façon, et c'est ce que fait par exemple le Royaume-Uni, d'essayer d'attirer dans ses emplois, dans ses bassins d'emplois sinistrés, un maximum d'investisseurs, même étrangers, pour maintenir l'emploi. Et donc une autre solution, c'est effectivement que les régions un peu défavorisées aujourd'hui essayent d'augmenter la qualité de vie qu'elles offrent, hein, la qualité d'environnement, y compris la qualité que peuvent trouver des entreprises internationales. Ça passe parfois par des infrastructures. Prenons l'exemple de Grenoble, ils ont créé un lycée international où on pouvait faire toute la scolarité en anglais. Quand Motorola s'est demandé où ils allaient déménager leur centre, ils sont allés à Crolles, à côté de Grenoble, parce que 400 cadres de très haut niveau de Motorola se disaient « je peux scolariser mes gamins facilement à Grenoble, donc j'y vais ». Donc il y a beaucoup de... Alors Grenoble n'était pas du tout une ville sinistrée ou ayant des problèmes d'emploi.
Non, puis à Crolles, il y avait STMicro, quoi, de mémoire. Donc
mais oui, pas, mais, voilà. Mais STMicro, qui ne suffisait pas, n'aurait pas pu attirer dans l'Alliance et les gens de Motorola auraient pu aller à Dresde, où le foncier ne coûtait pas très cher.
Non.
Mais justement, il y a parfois des manières pour les territoires. Enfin, Valenciennes s'est mis en quatre pour attirer Toyota. La Meuse s'est mis en quatre pour attirer Smart. Donc il y a moyen...
La Moselle, pardon.
Oui, j'ai tendance.
Pas grave. Philippe Vivien.
Non, mais je crois qu'on voit bien, enfin, c'est vraiment à la fois des politiques publiques, d'attractivité, des politiques d'accompagnement d'entreprise, et puis et tout ça doit permettre de redonner de la confiance aux salariés. Je crois que c'est vraiment un point important.
Et redonner de la confiance aux salariés. Et au final, tiens, justement, Thomas Sigaud, donc chercheur associé au CNAM, vous nous le disiez il y a quelques instants, enfin, il y a quelques minutes, hein, on l'abordait furtivement. La mobilité, finalement, c'est une arme anti-chômage. Si on faisait davantage pour la mobilité des salariés, s'ils étaient davantage mobiles, on pourrait lutter davantage contre le chômage.
Alors, c'est ce que disent un certain nombre d'études économiques qui s'appuient sur des modélisations très raffinées que je serais bien incapable de commenter dans le détail, mais qui ont un peu tendance, parfois, à peut-être chercher à mettre Paris en bouteille. Souvent, j'ai le sentiment que... ces analyses-là s'appuient sur une représentation assez appauvrie des modes de vie des salariés en disant, bah, de toute façon, l'arbitrage est simple entre rien et un emploi, ça vaut infiniment plus que rien. Vous pouvez diviser ce que vous voulez par zéro, vous arriverez toujours à une division impossible. Donc c'est pour ça que je pense que finalement, le terme d'attractivité, il est intéressant parce qu'on parle de l'attractivité d'un poste, et ça, une fiche de poste peut très bien être travaillée par la RH pour le rendre plus attractive. On parle de l'attractivité d'un contexte professionnel. Hein. Le problème d'Alstom, c'est que beaucoup de salariés disaient, je vais pas faire 200 km si mon usine ferme dans 2 ans et que mon nouveau poste est à nouveau menacé. C'est l'attractivité d'un territoire.
Vous avez raison, il n'y avait aucune garantie. Hein,
bon. Tout à fait, bien sûr.
Bon, Alstom, donc, le site de Belfort a fermé puisqu'on a forcé la SNCF à acheter des locomotives.
C'est des dimensions qui sont difficiles à intégrer dans les grandes modélisations d'ensemble et qui sont essentielles.
Allez, un mot chacun. L'emploi, justement, tiens, Emmanuel Le Chypre, Philippe Vivien.
Non, mais je crois qu'il y a tout un tas il y a toute une panoplie de choses. C'est vrai que vous ne pouvez pas penser la mobilité et l'attractivité sans penser réforme du marché du travail pour casser la barrière d'entrée finalement dans le CDI, parce que c'est vrai que quand vous avez 80% des emplois qui sont aujourd'hui en stock des CDI, mais que 90% des contrats signés sont des CDD, bah c'est vrai que ça vous incite pas à déménager. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, quand même, de problèmes qui sont adressés. Hein, on a dit, il y a ce bail mobilité, il y a des choses qui sont faites aussi pour diminuer le coût du permis de conduire, qui sont aussi des pistes intéressantes. Donc voilà, c'est un sujet qui commence à être un petit peu adressé, pris en compte.
Philippe Vivien.
Vraiment, enfin, je crois que c'est une suite, c'est un bouquet de mesures qui permet, je dirais, de mettre tout ça en musique. Et je dirais simplement, on peut reprendre la devise du capitaine Nemo, hein, mobilis in mobile, mobile dans l'état mobile. Je crois que c'est pas neutre.
Bon, merci à tous les quatre. Merci Thierry Veil, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, ce think tank qui regroupe de nombreuses fédérations industrielles. Philippe Vivien à la tête de son cabinet de conseil en relations sociales, Alixio. Merci Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Thomas Sigaud, passionnant, qui était avec nous. Maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours, chercheur associé au CNAM, spécialiste des questions de mobilité. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.